Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Ma femme d'aujourd'hui est ce qu'on appelle une tête bien faite et surtout bien structurée. Elle trace son chemin sereinement grâce à une vision pragmatique, géométrique et logique.
Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Soukaina Benjelloun, bonjour, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lella ?
Bonjour Lella et merci de me recevoir.
Alors, je lisais récemment un article sur vous et il y a quelque chose qui m'a interpellée. L'article commençait par en faisant une comparaison en fait, ou là une analogie entre votre physique et votre carrière. Dans cet article, on disait vous auriez pu faire présentatrice télé, vous auriez pu faire top modèle, mais vous avez choisi d'être architecte. Est-ce que ce genre de comparaison vous dérange, Madame Soukaina Benjelloun?
Alors oui, un petit peu, on va dire. Alors je ne veux surtout pas renvoyer une image de femme un petit peu coincée dans sa féminité. Et cela, je l'avais déjà dit au journaliste qui m'avait interviewé il y a presque une année maintenant. Donc parce qu'au-delà de mon statut de femme ou d'architecte, il va falloir que je mette en avant un statut intellectuel qui est Soukaina Benjelloun, l'architecte et docteur en sciences politiques. Et c'est ce que j'aimerais faire passer en premier.
Absolument.
Au-delà de ce côté esthétique-là.
C'est ça. Alors justement, est-ce qu'on met encore la femme, on réduit encore la femme, quel que soit son statut intellectuel, et vous l'avez dit, vous êtes architecte, vous êtes docteur en sciences politiques, ce n'est pas rien, c'est beaucoup. C'est, on va dire, deux formations parallèles, deux grosses formations parallèles. Quand on a une belle femme devant soi, est-ce qu'on la réduit encore aujourd'hui, en 2022, uniquement à son physique?
Non, heureusement non. C'est ce que je fais. Je fais tout pour ne pas la réduire uniquement à une.
Mais justement, vous faites en sorte de casser ce stéréotype. Ça veut dire qu'il y a ce besoin de casser ce stéréotype.
Absolument, absolument. Donc automatiquement, une femme bien dans sa peau, bien dans sa féminité, elle va renvoyer une certaine idée d'un petit peu de faiblesse intellectuelle. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il va falloir un petit peu casser ce stéréotype, comme vous venez de le dire. Et voilà. J'espère pouvoir m'affirmer à travers ma détermination et un petit peu mon leadership que j'essaie de transmettre à travers mes écrits, à travers la publication de mes articles, à travers ma voix et mon militantisme.
Alors justement, on va parler de ces deux spécialités que vous avez, ces deux casquettes, la casquette d'architecte et la casquette de docteur en sciences politiques. C'est l'attirance vers quoi en premier qui s'est fait?
Alors, en premier, tout naturellement, après l'obtention de mon baccalauréat, je me suis dirigée vers des classes préparatoires. J'ai été, j'ai été admise au lycée français très prestigieux Louis-le-Grand, Louis Pasteur, à Paris. Et donc, c'était un lycée qui n'admettait que 4 maghrébins par an pour les classes préparatoires pour les grandes écoles d'ingénieurs. Mais tout de suite après, je ne me suis pas sentie dans ma peau, on va dire. Et j'ai switché vers l'école d'architecture, qui était ma vocation première depuis mon enfance. Alors, j'ai fait 6 années d'architecture à l'école nationale de Rabat. Et ensuite, pendant mon parcours, j'ai fait un échange avec l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Et c'est là où j'ai effectué une double diplomation entre le Maroc et la France. Et voilà. Et tout de suite par la suite, j'ai enchaîné pendant plus de 7 autres années dans un cycle doctoral. Et ça m'a fait au total 13 années d'études de dur labeur, si je peux dire ça comme ça.
C'est vrai, ouais.
Et donc, j'ai cumulé simultanément plusieurs casquettes. J'ai travaillé en tant qu'architecte à la cour d'appel de Tanger. Et en même temps, j'ai continué dans tout ce qui était recherche scientifique et tout ce qui était cycle doctoral. Donc ça n'a pas été assez facile. Et je me suis trouvée tout naturellement dans tout ce qui était politique de la ville, tout ce qui était sciences politiques. Et donc c'est là.
C'est assez complémentaire finalement.
Absolument.
Ouais, on a l'impression que c'est deux choses complètement différentes, que les sciences politiques, c'est vraiment que la politique, ce qu'on voit que le show politique, alors que non. Les non. politiques des villes, voilà. c'est une discipline à part entière.
La ville, la gouvernance territoriale, voilà, les chantiers, comment transformer toute une ville. Alors, moi, si je devais vous parler un petit peu de ma thèse, qui s'intitulait « Gouverner dans l'urgence et par chantier », j'ai travaillé, j'ai accompagné en fait, si vous voulez, la transformation esthétique et en chantier de Tanger Métropole. Alors, je suis arrivée à Tanger en 2008, bientôt 15 ans, et c'est là où j'ai accompagné tout le changement esthétique de la ville et avec lequel j'ai vraiment construit ma thèse doctorale. Et donc, j'avoue que bon, les chercheurs internationaux, ils se sont intéressé à mon travail, au-delà de son aspect quantitatif qui renseigne sur les statistiques du terrain, il comporte aussi un aspect qualitatif et inédit qui décrit un peu les jeux d'acteurs qui évoluent dans la ville et le mode de faire de Tanger, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut autoriser des bâtiments, comment est-ce qu'on peut avoir de l'argent du central, c'est-à-dire Tanger étant une ville déconcentré et décentralisé, et comment est-ce que Rabat envoie de l'argent ou mobilise de l'argent pour faire de grands projets à Tanger et transformer la ville. Et c'est là où j'ai commencé toute cette aventure en sciences politiques pour décrire les jeux d'acteurs qui évoluent dans le système, pour voir les circuits et les contraintes administratives qui accompagnent, il faut le dire, le Maroc, il souffre d'un contexte de faible déconcentration et de décentralisation, et donc c'est là où mon rôle, il s'est un petit peu affirmé à travers mes travaux. Et donc, l'ensemble de ces travaux-là, ils m'ont valu plusieurs, plusieurs reconnaissances au niveau national. D'abord, j'ai été élue la plus jeune espoir du Maroc dans la catégorie gestion publique parmi 20 autres profils marocains brillants, au même titre que celui qui avait escaladé l'Everest en 2014. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à publier régulièrement des articles scientifiques qui ont des références soit à l'international, soit au national. C'était en soi une consécration, une fierté pour moi, parce que aujourd'hui, sur les bases de données internationales, si vous tapez le nom docteur S. Benjelloun, qui est Soukaina Benjelloun, je suis reconnue. Donc, j'ai commencé à publier dans des journaux locaux, comme la Dépêche du Nord, et puis aussi des journaux nationaux très prisés, comme l'Économiste, Média 24, mais aussi des journaux internationaux, comme le journal américain basé à Washington, le MWN. Il y a aussi des revues scientifiques comme Espace Géographique et Société Marocaine. J'ai aussi quelques articles en cours de publication dans des revues scientifiques africaines. Je publie aussi dans la revue de l'AMJO, qui est une revue de l'école d'architecture, parce qu'aujourd'hui l'école d'architecture, elle a ouvert un cycle doctoral pour les architectes, et donc c'est des doctorats en architecture, ce qui n'est pas mon cas, parce que moi j'ai un doctorat, on va dire, en sciences politiques, qui sont deux choses différentes.
Maintenant, comment techniquement ça se passe? Parce que, bon, on ne peut pas dissocier la professionnelle de l'épouse et la mère que vous êtes. Vous êtes Tbarkallah maman de 4 enfants qui sont tous assez jeunes. Donc avec tout ce qu'on entend par la vie de famille, les responsabilités, vous avez une carrière professionnelle et puis vous faites de la recherche, vous publiez. Une journée de Soukaina Benjelloun ressemble à quoi?
Alors, j'ai la chance d'avoir un mari qui est aussi architecte et qui m'aide un petit peu dans la vie professionnelle et qui me pousse à me réaliser. On va dire que moi, à chaque fois quand on me pose la question, on leur dit, nous, notre vie, on l'a conçue, on l'a dessinée ensemble. Donc, du coup, ma vie ou mon quotidien ressemble à un plan. Si je peux dire comme ça, d'accord, d'une façon rhétorique.
Ouais.
Donc, on le dessine et on le conçoit et on essaie de un petit peu départager les fonctions et donner à. J'essaie un petit peu aussi de responsabiliser mes enfants. Mon aîné, il a presque 11 ans aujourd'hui et ils ont 3 ans d'écart entre eux. Et du coup, donc, j'essaie de responsabiliser l'aîné. Les autres, ils suivent et on essaie de partager entre nous les tâches quotidiennes, les missions, pour que tout se fasse.
Tout s'imbrique, en fait.
Voilà, exactement. C'est un jeu de volume.
Ouais, exactement.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Je conçois de cette façon-ci.
Mais donc, en fait, c'est aussi une bonne gestion de temps, c'est aussi des habiletés à bien, c'est-à-dire à ne pas tout faire dans la même journée, à dispatcher ça sur la semaine, sur le mois, le moment de recherche,
Absolument.
le moment
Voilà.
d'écriture,
C'est un
etc.
planning, c'est un
C'est un
planning.
planning.
C'est la même façon, c'est de la même façon que quand je travaille ou que je fais un plan, ben je duplique la même façon de faire
Absolument.
sur ma vie quotidienne.
Alors, justement, vous l'avez dit, Sokhina Benjelloun, vous êtes architecte, votre mari l'est aussi. Est-ce que vous avez dit en même temps, notre vie, on l'a rêvée, on l'a dessinée, mais est-ce que c'est compliqué ou bien est-ce que c'est plutôt positif de faire la même chose que son mari? Et excusez-moi la question, est-ce que vous travaillez ensemble?
Non, nous ne travaillons pas ensemble. Alors moi, comme je vous ai dit, j'ai orienté ma carrière vers tout ce qui est politique et juridique. Moi, je travaille à la Cour d'appel de Tanger. Donc, on va dire que je suis la seule architecte régionale dans le secteur public qui relève du ministère de la Justice. Et donc, j'ai vraiment un travail complètement différent de celui que pourrait mener mon mari dans des chantiers privés et dans des projets propres à lui. Donc, voilà. Si je peux vous expliquer un petit peu,
Oui, bien sûr.
c'est que je suis un petit peu dans le conseil, de l'assistance auprès de l'organe juridictionnel. Et donc, moi, parallèlement à ma formation d'architecte, j'ai fait plusieurs formations en droit. Et j'ai entamé comment on appelle, un cycle universitaire en droit privé. Et donc, c'est ce qui me permet d'avoir cette double casquette d'architecte dans le juridique, d'architecte qui est plus... on va essayer de... J'ai essayé de me pencher un petit peu sur tout ce qui est contentieux, tout ce qui est conseil.
OK, un autre volet en fait. La poussière des chantiers, ça vous manque?
Je fais du chantier, je fais des chantiers, mais je la fais du côté, c'est-à-dire en représentant le maître d'ouvrage.
C'est ça.
Voilà, je ne représente pas le maître d'œuvre, mais je représente le maître d'ouvrage et je suis un petit peu le point de relais parce que mon maître d'ouvrage, c'est qui au final, ce sont les juges. Les juges ou l'organe juridictionnel, ils ne vont pas aller faire des check-in, si on peut appeler ça comme ça, sur chantier. Et ben, ils m'envoient moi. Je les représente et puis je suis un relais entre eux et le chantier. Voilà, c'est ça.
Alors, je pense que vous avez écrit récemment un article aussi pour dénoncer, enfin une tribune, pour dénoncer certains dérapages sur les réseaux sociaux liés à votre profession, liés en fait à la... On rend un petit peu tout ce qui est, pas l'architecture la vraie, mais tout ce qui est décoration, etc., un petit peu tendance, loin des principes de base.
Ah oui, alors là, ça fait partie aussi de ma casquette de militante parce que, bon, j'ai été pendant 3 ans vice-présidente du Conseil régional de l'Ordre des architectes de Tanger et aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, il y a une année, j'ai été élue au Conseil national. Alors le Conseil national, il chapeaute tous les conseils régionaux qui se trouvent au Maroc, qui sont au nombre de 12 et on est absolument 15 architectes qui représentent tout le territoire marocain. Le Conseil national, il est régi par la loi 1689 qui réglemente le métier. Et il a la personnalité morale pour représenter tous les architectes du Maroc. Alors moi, j'ai la chance d'être la plus jeune membre du Conseil national aujourd'hui de l'Ordre des architectes du Maroc. Et c'est là où un petit peu je continue à militer pour les droits des architectes, que ce soit ceux qui exercent dans le public ou ceux qui exercent dans le privé. Et c'est un petit peu là où je commence à avoir mal au cœur quand je vois que d'autres personnes qui s'appellent un petit peu influenceuses et qui surfent sur la vague ou sur le titre de l'architecte. Alors pour moi, c'est une usurpation du titre d'architecte parce que pour être architecte, il va falloir faire des études, faire au moins 6 ans d'études et aujourd'hui, on parle de 2 ans de stage complémentaire qui allonge la formation à 8 ans et on se retrouve avec beaucoup de personnes qui réduisent cette valeur travail et cette valeur compétence à un titre qu'on peut banaliser, qu'on peut retrouver facilement sur les réseaux, rien qu'en tapant le nom de certaines influenceuses, et ben on voit qu'elles sont architectes ou architectes d'intérieur, alors or que le port du titre d'architecte, il est vraiment réglementé par un dahir, il est conditionné par l'obtention d'un numéro d'autorisation que le secrétariat général du gouvernement vous octroie. Et donc, ce sont vraiment des procédures assez complexes pour pouvoir arriver à porter ce titre.
Mais le Conseil ne peut rien faire de façon concrète?
Si, si. Si. Bah justement, bah j'en fais un cheval de bataille. C'est pour cela que j'ai publié un article récemment sur Express dénonçant ces pratiques illégales, justement, de ces personnes-là qui, d'abord, un architecte pour exercer, il paye des taxes professionnelles. Il est suivi par beaucoup de charges. Il y a d'autres personnes qui viennent juste en publiant des photos ou sur Instagram ou alors en mettant en avant un physique, la question que vous m'avez posée au départ. Et bien sûr, elles peuvent user de ce titre sans scrupule. Alors c'est là où je me suis un petit peu...
Révoltée. C'est normal,
voilà.
Je vous comprends parfaitement, c'est normal.
Voilà. Alors, on peut pas, tout le monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux est architecte. Alors il faut différencier. Et quand on dit qu'on est, par exemple, architecte d'intérieur, même le terme architecte d'intérieur, ça suppose d'avoir fait une formation Bac plus 5. Alors, on ne peut pas venir avec une formation d'un Bac plus 3 ou alors une école qui vous octroie un diplôme rien qu'avec un niveau Bac ou avec des cours de deux jours ou des cours de soir et dire que vous êtes designer ou architecte aux États-Unis. En France, le port de ces titres-là est assez réglementé. Et au Maroc, nous avons aujourd'hui un petit vide juridique, mais nous essayons un petit peu de le combler et puis d'attaquer directement et frontalement ces personnes-là qui usurpent ces titres professionnels sans scrupule, voilà.
Elles sont bien référencées chez vous ?
Et voilà, oui. Et qui au final, elles prennent des parts de marché pour les architectes n'ont pas encore utilisé cet outil formidable qui est Instagram ou YouTube, donc... au lieu que le citoyen passe par le circuit traditionnel en faisant appel à un architecte et construire, on part dans des circuits qui ne sont pas réglementés. Et puis, on consulte finalement des personnes qui ne sont pas professionnelles. Et là, on ne peut même pas imaginer ce qui pourra se passer au niveau du suivi de chantier. Il y a des lois, bien sûr, qui régissent le suivi de chantier. On a aujourd'hui une loi assez sévère qui est la 66-12, qui responsabilise l'architecte en cas de problème. Et ces personnes-là, en cas de problème, elles n'auront que le maître d'ouvrage ou alors celles qui lui ont fait confiance au départ pour qu'elles prennent en charge leur chantier ou leur projet. Ils vont se retrouver par la suite dans les tribunaux. Et c'est ce que je ne souhaite pas voir. Et voilà, c'est mon quotidien à la cour d'appel. C'est une juridiction qui chapeaute le tribunal de première instance. Et donc, c'est un petit peu désolant de voir ce genre de situation se produire et dans lesquelles le citoyen lambda n'a aucune conscience. Voilà, il n'a aucune conscience de l'existence d'un architecte qui est le maillon fort de la construction au Maroc. On ne peut pas le substituer par quelqu'un qui se vante sur les réseaux sociaux d'avoir pu agencer quelques meubles ou alors d'avoir pu décorer un salon. C'est pas du tout de la décoration, c'est
de la mise en place.
C'est un processus de A à Z. Et on ne peut pas le réduire à avoir décoré son salon ou son chez soi et se proclamer architecte d'intérieur ou même designer. Voilà, parce que même le diplôme, c'est même pas un diplôme qu'octroient ces écoles aujourd'hui qui est un peu prête confusion avec le vrai diplôme d'architecte. Elle donne des certificats de formation en design d'intérieur. Et donc ce certificat de formation en design d'intérieur ne donne aucun droit à celui qui le détient de jouir du titre d'architecte, de designer ou alors même d'architecte d'intérieur, parce que c'est une appellation qui n'est toujours pas soumise à une réglementation précise.
Alors, vous donnez combien de temps pour y arriver, justement ? C'est quoi votre deadline ? Parce que j'imagine que vous aimez bien travailler aussi avec des objectifs. Vous l'avez dit, il faut que tout s'imbrique.
Absolument. Voilà. Alors là, il va falloir un petit peu porter la plainte un petit peu plus haut que le Conseil national, voire avec le SGG, le secrétariat général du gouvernement qui octroie les autorisations. Et donc, c'est là où notre bataille va commencer. On se donne 1 an, 2 ans pour pouvoir
faire le nettoyage.
Boucler. Voilà, cette bataille qui est beaucoup plus juridique. Grâce à l'heure, on va passer au degré juridictionnel pour pouvoir un petit peu assainir la profession.
Eh bien, on peut le dire comme ça. Ouais. Soukaina Benjeldoun, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et merci d'avoir démontré qu'une belle femme était bien plus que sa carcasse extérieure.
Merci Lala, c'est tout le plaisir.
Son enveloppe extérieure, on va dire que c'est
voilà,
plus fin.
J'espère ne pas avoir oublié un des volets. Le dernier volet que je voulais partager avec vous, c'était ma casquette au sein de l'Association marocaine des politiques publiques, dont je suis fièrement vice-présidente aujourd'hui, et qui est quelque chose d'absolument extraordinaire, un vrai think tank qui est à l'initiative d'une équipe de chercheurs pluridisciplinaires. On a les sciences politiques, l'économie, la sociologie, mais aussi l'architecture et la gouvernance territoriale. Et on a pour dessein d'analyser l'action publique. Et c'est là où, à travers cette tribune-là aussi, que je publie mes articles en sciences politiques que j'aimerais vraiment faire connaître à une échelle plus large, Inch'Allah.
Inch'Allah. Merci infiniment. Justement, si des personnes souhaitent consulter vos articles, c'est via des plateformes spécialisées ou bien sur notamment.
Oui, alors elles sont sur les bases de recherche internationale pour les chercheurs en doctorat, des docteurs. En tapant le S. Benjeloun, c'est docteur Soukaina Benjeloun, c'est l'idée. Voilà, c'est. Et sinon, c'est sur ma page Facebook que je publie régulièrement, où je compile absolument tous les articles de tous ces domaines-là auxquels je touche actuellement. Et je publie tout sur cette page-là.
Soukaina Benjeloun, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter.
N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.